Chapitre 8. Le seigneur Carambolini venait d'arriver. Madame Capel achevait de placer son monde, promenant à travers les groupes ses rubis et ses sourires et distribuant à ses protégés des encouragements polyglottes. Elle nageait dans son élément. Bienveillante avec ostentation, elle était faite pour le patronage. À force de se le dire et de le faire répéter aux autres, elle était persuadée qu'elle adorait la musique. Et comme elle était veuve, riche et généreuse, les débutants et les artistes en déveine n'avaient pas tardé à affluer autour d'elle comme les abeilles autour d'un chèvrefeuille. C'est très simple à organiser une coterie musicale à Londres. Vous prenez 5 ou 6 artistes, italiens si possible, ou du moins parés de noms en rimes italiennes, de moustaches d'ébène et d'épingles de cravate invraisemblables, lesquels artistes doivent être prêts à délirer d'enthousiasme chaque fois que l'occasion le commande. Chacun des 5 jurés compose un morceau de salon, fantaisie, mosaïque ou rêve, puis s'engage, par un serment dont la formule n'a pas encore été révélée, à ne jamais jouer que sa propre musique ou celle des 4 autres. C'est une société d'exécution mutuelle. L'égérie, qui habite un quartier fashionable, prête ses salons. On imprime des programmes, un joli petit auditoire élégant se réunit, les conjurés donnent le signal des applaudissements, frémissent, s'exaltent, gesticulent. Leur délire se communique. L'assemblée, les voyant si enchantés d'eux-mêmes, ne demande pas mieux que de les croire, sur parole, de prodigieux génies. L'opération se répète 2 ou 3 fois, et si les circonstances sont propices, leur réputation s'étend de Belgravia à Kensington. Leur coterie devient une puissance, les éditeurs la saluent, égérie triomphe et publie sur papier de Chine ses propres élucubrations, revues par l'un des associés. Claude Forest, à qui l'on venait de passer un programme, fit une légère grimace en le parcourant. Il n'y trouvait que des noms à lui inconnus et les titres indiqués lui firent pressentir de quelle sorte de musique il allait être affadi. Le silence s'établissait. On n'entendait plus qu'un léger bruit d'éventail et le froufrou des robes sur le tapis. Miss Capel, après avoir tourbillonné autour des groupes, s'abattit sur un pouf, non loin de la portière qui abritait Claude et ses impressions trop vives. Les exécutants mutuels s'étaient massés devant l'estrade, autour de la signora Cavalessa, qui jetait sur l'auditoire des regards sombres, chargés de passion. Pour commencer, le chevalier Sardini et le signor Carambolini traversèrent le tapis de Smyrne, saluèrent avec grâce et s'assirent au piano pour exécuter à 4 mains une grande fantaisie intitulée « Réminiscence », et avec raison, car on y trouvait des fragments de toutes les mélodies qui ont couru le monde depuis le déluge. La vélocité et la force des 2 pianistes étaient étourdissantes. Les gammes couraient à raison de 50 lieues à l'heure, avec le bruit d'un express lancé dans un tunnel. Quelques auditeurs fermaient les yeux, regrettant peut-être de ne pouvoir fermer aussi les oreilles. Aux derniers accords, la vibration fut si forte que 2 cannes tombèrent tout de leur long sur le plancher. Il y eut un instant de silence, puis le groupe des conjurés se leva comme un seul homme. « Bravi, bravi, suonato benissimo !» « Excellentissimo! Votre talent, qu'il est énorme, chevalier Sardini !» Quand les 2 exécutants descendirent de l'estrade, ils furent immédiatement entourés par leurs amis, qui se trémoussèrent sur nouveaux frais, passant de l'enthousiasme à l'attendrissement, si bien que Claude finit par craindre une embrassade générale. Caché derrière sa portière, il observait son entourage et se divertissait comme il pouvait. Il s'amusait de la pantomime pour tâcher d'oublier la musique qui lui agaçait les nerfs. Il était désappointé, s'apercevant bien que cet enthousiasme qui se battait les flancs était pour les uns une pause, pour d'autres une réclame. Jaloux de la dignité de son art, il souffrait avec impatience de le voir affublé d'oripeaux comme une idole et célébré avec un délire de commande par des derviches tourneurs. Cependant, il gardait ses remarques pour lui. Sa bouche était peut-être un peu plus dédaigneuse que de coutume, mais son visage, que Miss Capel épiait à l'ombre de son éventail, ne trahissait pas autrement ses impressions. Un autre signor en I et son violon venaient de paraître sur l'estrade. Madame Capel s'assit au piano pour l'accompagner. Le programme indiquait « Praline à la rose, caprice inédit ». Le violoniste avait une dextérité merveilleuse et le jeu suave de son école, mais après 2 minutes de cette musique doucereuse et mignarde, Claude Forest se sentit écœuré. Le reste de l'auditoire avalait ses pralines avec béatitude. Miss Capel avait laissé tomber son éventail. Les mains jointes, les yeux perdus, elle nageait dans les espaces. Quand elle en redescendit, elle trouva les yeux de Claude fixés sur elle. « J'étais partie, complètement partie. Oh, cette musique céleste, est-ce qu'elle ne vous remue pas ?» Claude fut sur le point de répondre qu'elle le remuait en effet, comme le paquebot de Calais à Douvres quand la manche est mauvaise. Mais la signora Gavales était déjà debout près du piano, faisant sa révérence tragique. Sa voix était un mezzo-soprano dont quelques notes étaient encore fort belles, mais dont les autres n'étaient indiquées que par un effort pénible pour y atteindre. Cette voix avait rempli autrefois une salle immense, le climat de Londres en avait peu à peu rongé les cordes, dont certaines ne vibraient plus que comme un écho plaintif, tandis que d'autres, devenues stridentes, faisaient courir une vibration tout le long des murs. Ce contraste était étrange, presque pathétique. En regardant la signora Cavalès à rouler ses grands yeux noirs, Claude songea à une blessée qui se tient debout jusqu'à son dernier souffle. La romance qu'elle chantait était banale comme un pont neuf. Elle y faisait pourtant frémir et pleurer une vraie passion, un douloureux regret de ce qui avait été et n'était plus. Le petit homme brun qui avait composé cette romance écoutait la diva dans un ravissement éperdu. Il ne s'était pas douté jusqu'alors que sa musique pût exprimer quelque chose. Claude applaudit la signora Cavalès avec d'autant plus d'ardeur que le reste de l'auditoire semblait froid. Une fraîche voix de 18 ans qui gazouille avec gentillesse plaît mieux qu'un instrument à demi brisé qui soupire encore d'une manière touchante mais ne résonne plus. La diva Cavalès était une tradition et, comme le public anglais a le respect des traditions, il applaudissait avec politesse mais sans l'ombre d'enthousiasme. Claude devina une amère tristesse sous les attitudes théâtrales de la cantatrice usée et fatiguée. Il redoubla ses bravos, dont elle le remercia par un signe de tête, accompagné de ce sourire italien qui ne vieillit jamais. Le petit homme brun versait des larmes. « Je suis bonne encore à faire vendre votre musique, c'est quelque chose » murmura-t-elle en passant devant lui. Il lui baisa la main. Avec les bravos de Claude, c'était presque une ovation et elle se crut rajeunie. Les plateaux de rafraîchissement circulaient. « Mon tour va venir, » dit Tom Capel en s'approchant de Claude. « Quand le signor Zambali se sera fait entendre, je devrai prendre mon courage à deux mains. Dans l'intervalle, je vais avaler un œuf cru. Cela donne à ma voix un moelleux extraordinaire. » Le signor Zambali ne tarda pas à monter sur la scène. Il portait des gants blancs comme un marié de la banlieue. Une mèche de cheveux noirs tombait sur son front. Il sourit agréablement en la rejetant en arrière par ce geste familier au génie. Il s'assit au piano et fit rouler quelques arpèges préliminaires. Claude jeta un regard distrait sur son programme, ballade sans parole, composée par le signor Zambali. Un petit frémissement parcourut l'auditoire. Évidemment, on attendait de grandes choses du signor Zambali. Tout à coup, Claude releva vivement la tête et devint plus attentif. Un flot de sang lui monta aux joues. Cette mélodie ressemblait étrangement. Il écouta encore, froissant d'une main agitée les plis de la portière. Il n'y avait plus à en douter, cette mélodie était la sienne, c'était sa bagatelle. Après le premier choc et une minute de stupéfaction, la colère s'empara de lui en même temps qu'un violent désir de sauter sur l'estrade et de prendre le pianiste au collet en l'appelant « voleur ». Pâle d'indignation, se mordant les lèvres et serrant à deux mains le dossier d'une chaise, il réussit pourtant à se contenir jusqu'au bout. Le signor Zambali avait bonne mémoire. Il avait retenu très fidèlement le motif, tout en le transposant dans un autre ton et en le chargeant d'arabesques. Claude lui eût pardonné plus facilement de lui avoir volé sa composition s'il ne l'avait dénaturée. La grâce simple et discrète de l'ensemble disparaissait sous des ornements prétentieux, mais la mélodie gardait assez de verve originale pour conquérir l'auditoire. Un murmure d'approbation passait de bouche en bouche. À la dernière note de la dernière variation, tout en trille, un murmure flatteur s'éleva. « Cette composition est-elle publiée ?» demanda Claude en se penchant vers Miss Capelle. « On la met en vente aujourd'hui chez Lidenmann. Signor Zambali nous en a réservé la primeur. » Claude n'ajouta rien et se dirigea droit vers l'estrade. Il était assez calme maintenant pour être sûr de ne pas faire d'esclandre et il désirait voir si le signor Zambali était capable de rougir. On entourait l'heureux compositeur pour le féliciter. Claude vint à lui et le regarda en face sans rien dire. L'Italien tressaillit légèrement. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pût rencontrer le jeune artiste inconnu dans le salon de son égérie. « Veuillez accepter mes compliments, dit Claude. Vous me reconnaissez, je crois. Nous nous sommes vus récemment. »« Excusez-moi, dit le signor Zambali qui n'avait pas perdu contenance, j'ai mauvaise mémoire. » « J'aurais cru le contraire, dit Claude avec ironie. » Il voyait qu'on les écoutait curieusement et que le signor Zambali, sous son apparente indifférence, était mal à l'aise. « Vous avez une remarquable faculté d'adaptation, reprit Claude. Je vous félicite de suivre en cela l'exemple d'autres grands hommes qui prennent leur bien où ils le trouvent. Je ne suis pas riche, mais j'ai de quoi vous faire l'aumône, signor Zambali. » Là-dessus, il tourna sur ses talons, car il sentait la colère bouillonner de nouveau. « Ce jeune homme, il semble avoir le cerveau dérangé, » dit le signor Zambali en se touchant le front du bout du doigt. Claude regagna lentement sa place, la tête haute, souriant avec dédain. Il songeait moins au pillage dont il était la victime qu'à la profanation de l'art par les rapaces qu'il exploite. « Veuillez m'excuser auprès de Madame Capelle, » dit-il à Tom qu'il rencontra près de la porte. « J'ai eu un choc tout à l'heure, j'ai besoin de grand air. »« Vous nous quittez déjà ? Quoi, sans m'entendre, je comptais sur vos critiques amicales. » Claude frémit, il savait ce que signifie cette formule. Il s'éclipsa au plus vite et après quelques minutes de marche rapide, il avisa un omnibus qui le déposa bientôt à la porte de Monsieur Simpson. L'éditeur était seul dans son bureau. Claude avait recouvré un peu de calme extérieur, mais son irritation n'était pas moins vive. « Monsieur, dit-il sans préambule, on m'a volé chez vous comme dans un bois. » L'éditeur eut un léger soubresaut, mais sans rien perdre de sa réserve, il se contenta d'écliner la tête en disant « Expliquez-vous. » « Ce ne sera pas long, dit Claude toujours debout. » Cet Italien qui se trouvait ici le soir où je vous ai joué ma composition se l'est purement et simplement approprié en la défigurant par des variations de son cru. Il en a fait une vulgaire, plate, prétentieuse ritournelle. Cela me tient au cœur, je vous jure, plus que de la perte de mon travail. Mais je n'ai point l'intention de me laisser tomber sans regimber. Je viens vous demander de témoigner pour moi. » M. Simpson se renversa dans son fauteuil, croisa les jambes et resta longtemps silencieux. « Je suis désolé de ce qui vous arrive, » dit-il enfin d'un ton de sincère regret. « Mais vous m'excuserez si je vois la chose à un point de vue un peu différent. Asseyez-vous, je vous prie, et causons de sens rassis. » Claude obéit à contre-cœur. « Tout d'abord, » poursuivit M. Simpson, « reconnaissez que vous étiez averti. » Claude ouvrit de grands yeux. « Averti ? Je vous ai prié, et avec insistance, de différer l'exécution de votre morceau, vous faisant remarquer que je n'étais pas seul. Le signor Zambali passe à tort ou à raison, je dis à tort ou à raison, je ne porte aucun jugement, le signor Zambali passe pour s'assimiler très facilement les idées des autres. Il est saisi au vol et les accommode à la sauce italienne, dit-on. Il se peut qu'on le calomnie. J'ai cherché à vous mettre sur vos gardes. Vous ne m'avez apparemment pas compris, mais vous avouerez qu'en présence du signor Zambali lui-même, il m'était difficile d'être plus explicite. « Je le reconnais, dit Claude. Je vous remercie de vos bonnes intentions. Seulement, la question n'est pas là, me semble-t-il. J'ai été volé, voilà le fait. Je l'exprime brutalement peut-être, mais des expressions plus voilées n'y changeraient rien. » « Hum !» dit M. Simpson en toussant d'un air circonspect. Il est très essentiel, au contraire, de choisir soigneusement ses expressions. Voler n'est pas le mot que j'emploierai dans les circonstances présentes. Je parlerai d'une coïncidence fâcheuse qui a fait éclore la même mélodie à la fois dans votre tête et dans celle du signor Zambali. Claude sourit avec ironie et dédaigna de répondre. Quand on a comme moi 25 ans d'expérience, reprit M. Simpson, on sait que le droit du compositeur est une des choses les plus contestées qui existent, une propriété très difficile à garder en main ou en portefeuille. Le vent souffle où il veut, l'inspiration est capricieuse, il y a des rencontres singulières, cela se voit tous les jours. Le domaine des idées n'a pas de frontières. Il aurait débité un plus grand nombre d'aphorismes si Claude ne s'était levé tout d'un coup, incapable de se contenir plus longtemps. « Monsieur, dit-il, m'avez-vous, oui ou non, entendu jouer ma composition il y a 15 jours ?»« Certainement, je ne vois pas la moindre difficulté à le reconnaître. » « Eh bien, je vais vous amener le signor Zambali de gré ou de force. Il vous jouera sa ballade sans parole, qu'on met en vente aujourd'hui même chez Lindemann, et vous voudrez bien témoigner que le motif de sa composition m'appartient. »« Je n'en ferai rien, répondit M. Simpson d'un ton résolu. Je m'y refuse absolument, dans votre intérêt comme dans le mien. Ces choses-là ne sauraient se prouver. Votre mélodie m'est entièrement sortie de la tête. » Zambali trouvera un avocat qui mettra la charrue devant les bœufs et vous accusera d'avoir vous-même volé son client. Non seulement vous perdrez votre procès, mais Zambali vous poursuivra en diffamation. Soyez raisonnable, jeune homme, prenez le monde comme il est. Une autre fois, vous serez plus prudent. Claude restait immobile, la tête penchée. Un pénible sentiment d'impuissance succédait à sa colère. Il avait les mains liées, puisque M. Simpson refusait d'être son témoin. « Ne vous laissez pas abattre, reprit l'éditeur d'un ton bienveillant, vous percerez tôt ou tard si votre talent est réel. Vous n'en êtes pas à une mélodie près, je suppose. Trouvez-en une autre et gardez-la sous le boisseau jusqu'à ce que le moment soit venu de la produire. Bonjour !»